Désert rebelle et toujours les oreilles loin du front. Il est l'heure d'attaquer le grand dossier du jour. Un dossier conséquent puisqu'il va nous tenir tout le mois de décembre. Une série d'émissions avec monsieur, j'allais dire monsieur Daniel Ben Saïd, Bensa, comme on dit au NPA plus couramment. Pierre, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus ce projet?
Voilà, bah autant te le dire, autant vous le dire tout de suite. Daniel Ben Saïd, on est fan, enfin à quelques-uns, on était,
Oui, on est acquis.
on est acquis quoi. On boit à ses paroles, mais c'est sa capacité à être au cœur du débat politique, historique, philosophique, et en même temps son érudition, la profondeur avec laquelle il réfléchit, à la fois historiquement et à la fois sur des dimension internationale, espèce d'accumulation primitive de savoir sur l'histoire du mouvement ouvrier, qui fait que voilà la pensée de Ben Saïd, sa manière de présenter et de voir le monde, de comprendre des dynamiques historiques et politiques nous stimule. C'est aujourd'hui quelqu'un dont la pensée paraît une des plus intéressantes. Alors on s'est mis à quatre, on était avec Gwen, Marion et Guillaume Yom, et on a proposé à Daniel Ben Saïd de se rencontrer, de faire une série d'enregistrements. Autour d'un principe simple, c'est-à-dire qu'on a choisi 13 dates, 13 dates dans le 20e siècle, et on lui a proposé à chaque fois de donner sa vision de chacune de chacun de ces événements historiques et de à sa manière de la regarder avec d'autres événements historiques, avec d'autres endroits dans le monde, d'autres expériences. Ça donne quelque chose de bien, super bien même.
Ouais, super bien. Ce que j'en vois là au fond, près du radiateur, qui commence à se lancer des boulettes de papier. Et c'est pas du tout un cours d'histoire, en tout cas pas comme on les a vécues en ces temps de lycée lointain où on avait des petits boutons sur la figure. C'est quand même quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il y a ce qui est quand même étonnant dans Daniel Ben Saïd, c'est je trouve aussi sa capacité à mettre en perspective les choses et à parler des événements historiques en montrant l'actualité qu'ils prennent aujourd'hui, en fait, en faisant parler ces événements au regard des situations actuelles.
Alors on va commencer ces 13 dates par 1917. 1917, la révolution russe.
Le départ, la genèse, notre genèse.
La genèse. Mais alors on va justement lui demander si c'est bien de là que vient ce 20e siècle. Vingt-cinq octobre 1917. 25 octobre 1917. Alors, trouver un point de départ pour évoquer l'histoire du mouvement ouvrier dans son temps long n'est pas évident. On aurait pu choisir 1864 et la création de la première internationale des travailleurs. On aurait pu prendre 1871 et la commune de Paris. Alors, choix plus académique ou scolaire, peut-être, on a choisi le 25 octobre 1917 et la prise du palais d'hiver. Alors qu'on est en plein dans la Première Guerre mondiale, en Russie, sous l'impulsion de Lénine, les gardes rouges prennent le contrôle de Pétrograd dans la journée du 24 octobre 1917 et le 25 au matin, c'est la prise du palais d'hiver. C'est aussi le tournant de la révolution russe. Et si nous évoquons cette date, c'est que cette révolution ouvre à nos yeux un cycle, une page de l'histoire d'un siècle marqué par l'exercice du pouvoir de certains régimes qui se réclament du socialisme et du mouvement ouvrier. Alors, ça ouvre plein de questions. Qu'est-ce qui se passe en octobre 1917 en Russie? Et quel sens on peut donner à ces événements aujourd'hui, avec presque un siècle de recul? Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est la figure de Lénine, et derrière ça, du léninisme, qui fut une figure centrale pour le mouvement ouvrier au XXe siècle.
Alors bon, tout d'abord, je crois que la date choisie, effectivement, la Commune ou 1864 auraient pu être des bonnes dates, voire même 1848, pourquoi pas. Mais effectivement, je crois que octobre, par l'écho et les répercussions internationales, par le fait que ça a été un des événements qui ont conditionné ou déterminé à peu près tout le court XXe siècle ou siècle des extrêmes, selon les différentes formules des historiens, de ce point de vue-là, aussi bien historique que symbolique, c'est effectivement une date fondatrice ou une date inaugurale. Alors, il y a plusieurs problèmes qui, enfin, ou plusieurs choses qui s'investissent dans la lecture d'octobre. Aujourd'hui, l'astre est presque éteint, donc on a du mal à imaginer à quel point la nouvelle est dans l'immédiat, la bonne nouvelle d'octobre, on peut dire, hein, a pu avoir d'influence en Europe et même à l'échelle internationale comme un acte de libération double. C'était d'une part la première révolution socialiste du siècle et même d'une certaine manière de l'histoire, puisqu'on connaît ou on répète souvent l'anecdote de Lénine dansant dans la neige quand la révolution, le pouvoir issu d'octobre a tenu plus longtemps que la Commune de Paris. Bien, donc c'était l'idée que c'est possible, d'une part, une idée d'émancipation sociale, et en même temps, l'idée que l'émancipation sociale allait de pair avec l'idée de la paix. Parce qu'une des grandes raisons de l'impact de la Révolution d'octobre, au-delà des frontières de ce qu'était alors la Russie, c'est effectivement cette idée de la paix, de plus jamais ça. C'est sûrement un des ressorts principaux, par exemple, qui a donné la majorité à la composante communiste au congrès de Tours. Moi, j'avais un vieil oncle qui avait été gazé dans la guerre de 14, qui s'est retrouvé dans le courant majoritaire du congrès de Tours, mais une des motivations principales, c'était la paix, plus jamais ça. Et la révolution russe semblait porter ce message-là, en même temps qu'un message de transformation sociale et d'émancipation. Alors après, évidemment, ça fait que on se chevauche un petit peu de lecture de la Révolution d'octobre. Il y a une lecture historique ou historienne, rentrer dans l'événement, comprendre sa dynamique, ses contradictions, ses difficultés. Puis c'est quand même une révolution qui survient dans des conditions de pays dévastés, où la Russie, qui n'était pas très développée avant 14, est rejetée encore plus en arrière, et elle le sera encore plus en 1921, à la fin de la guerre civile. Donc ça, c'est les conditions de pénurie ou de dégâts sur lesquelles va pouvoir prospérer la bureaucratie. Mais dans le moment de l'événement, il y a surtout l'espoir, comme il y en a eu en Allemagne d'ailleurs, hein, si on lit le roman de Ernst Gleiser, La paix, c'est la même aspiration, c'est où le social et la volonté de paix se combinent. Et puis se superpose à ça l'épopée héroïque d'octobre, c'est-à-dire la lecture... Enfin, nous, on n'a pas vécu l'événement, on voit pas octobre où il y a peut-être des bribes de films, mais l'image qu'on a en tête d'octobre, c'est pas le reportage qu'on aurait aujourd'hui au journal de 20h. C'est le octobre d'Eisenstein, donc c'est déjà une sublimation symbolique de l'événement avec la qualité épique de la filmographie d'Eisenstein, etc. Donc, mais ça fait partie aussi de la réception de l'événement, de comment il a pu marquer l'imaginaire de centaines, voire de millions de gens, et pas seulement d'ailleurs dans les milieux ouvriers industriels d'Europe occidentale ou des États-Unis, hein, si on regarde le film Reds de Warren Beatty, bon, comment là aussi, chez les chauffeurs de camions de Minneapolis ou autre, comment cet événement a pu parler à une et même à des générations entières, parce que j'appartiens à une génération où c'était encore quelque chose qui faisait vibrer, qui n'avait pas l'image douteuse d'aujourd'hui. Alors, les deux problèmes sur lesquels on peut tomber, bon, tu as abordé le problème du léninisme, parce qu'il y a aujourd'hui une espèce de généalogie biblique à rebours. si ça a mal tourné, si on a eu le totalitarisme bureaucratique, ce despotisme bureaucratique était en germe dans Lénine, qui était en germe chez Marx, lequel était en germe dans Rousseau. Bon, et on arrive à la faute à Rousseau, si ce n'est pas pire encore. Bon. Or, ce qui est important, c'est de repérer quand même les continuités et les discontinuités historiques. Des continuités, il y en a. C'est clair qu'on peut aujourd'hui repérer ce qu'étaient les limites et l'horizon de pensée de gens comme Lénine, et plus généralement d'ailleurs de la génération d'octobre, la génération de militants, qui sont tributaires de la culture, des modes de pensée de leur temps, et bon, qui ne voient pas, pour le dire quand même assez simplement, on est dans des sociétés qui sont à dominante rurale. Le rapport culturel à la violence n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. On peut avoir l'idée d'une violence innocente et libératrice après le nazisme, le goulag, la tragédie cambodgienne, les génocides du XXe siècle. On a un rapport beaucoup plus problématique à tout ça. Mais donc il faut essayer de comprendre la démarche là-dedans. Et les mots mêmes ont changé de sens. Quand on parle à l'époque de dictature du prolétariat, c'est une dictature majoritaire qui s'oppose à la tyrannie dans le vocabulaire hérité du XIXe et du XVIIIe siècle, et donc qui n'est pas du tout un mot péjoratif, et qui est la forme du pouvoir d'exception par lequel passe toute transition d'une société, d'un mode de domination à un autre. Bon, après Pinochet, Franco, Salazar, les colonels grecs, c'est clair que le mot aujourd'hui... La connotation prise dans le siècle l'emporte sur la vieille définition romaine. Bon, et ça sert à rien, on peut le faire dans des livres savants, mais personne comprendra ça à la première donnée. Donc il y a au contraire un Lénine très libertaire, ça on l'oublie, le Lénine de l'État et la Révolution. S'il a péché quelque part, c'est plutôt par l'illusion que l'État allait disparaître vite. Il y a même une lettre de Lénine au commissaire du peuple à la justice, où le gars, je ne me rappelle plus son nom, dit « Bon, ben là, on est dans un état d'exception où la loi est suspendue, mais il va peut-être falloir réécrire un code civil, etc. » Et Lénine dit « Non, mais c'est pas la peine, on n'aura pas le temps, puisque l'État va dépérir, le droit dépérira avec, et c'est même pas la peine de se compliquer la vie. » Donc il y a plutôt une illusion sur le fait que si la révolution s'étendait, ça c'était la condition évidemment majeure à l'échelle européenne, bon, toutes ces formes hiérarchiques de domination et de pouvoir pouvaient dépérir, non pas à l'échelle historique, mais de manière, si ce n'est immédiate, du moins à court ou moyen terme. Donc le problème, est bien de situer, là, c'est pas ce qui est gênant dans des livres comme le Livre noir du communisme, comme les livres de Furet, etc., c'est de lire l'histoire comme un enchaînement logique dans les idées, c'est-à-dire que le passage par les contradictions, les forces sociales en mouvement, les problèmes historiques, est complètement noyé et dissous dans une espèce de logique purement intellectuelle ou purement des idées. Non, alors ça c'est le point fondamental. Ou bien on pense que tout ce qui s'est passé dans le siècle était déjà inscrit dans la révolution d'octobre, parce que, ce qui était d'ailleurs à l'époque la version menchévique, parce qu'elle était prématurée, parce que les conditions sociales n'existaient pas, parce que donc on ne peut pas forcer la main de l'histoire, etc. Bon, et là, on refait le film à l'envers et on dit, ben, il ne fallait pas faire. Bon. Et je crois que c'est la conclusion à laquelle arrivent pas mal d'anciens communistes ou même de direction de partis communistes. Ou bien on essaie de comprendre ce qui s'est passé, c'était pas fatal. Bon, un événement, et Dieu sait qu'une révolution, ou a fortiori celle que symbolise Octobre, est la définition de l'événement, c'est ce qui arrive et qui aurait pu ne pas arriver, sinon il n'y a pas d'événement, si c'était inscrit dans la logique antérieure. Alors, ça aurait pu ne pas arriver, c'est arrivé. Tout ne peut pas arriver, ça serait un miracle religieux. Ça arrive, mais c'est une possibilité qui se réalise, mais qui n'était pas fatale. Les conditions existaient. C'est arrivé, et après, l'avenir de l'événement dépend de ce qui se passe après. Et alors là, ou bien on considère que tout ce qui s'est passé dans le siècle, la défaite de la révolution allemande, la défaite de la guerre civile espagnole, que tout est fatal, dans ce cas-là, faut croiser les bras, aller se coucher, ou bien on pense qu'à chaque fois, les choses sont remises en jeu. Et dans le cas de la révolution russe, elles ont été remises en jeu à plusieurs reprises dans la révolution allemande de 23, dans la lutte en Russie même entre les oppositions et la bureaucratie montante à la fin des années 20, dans la lutte contre la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne. Bon, c'est autant de bifurcations de l'entre-deux-guerres qui n'étaient pas jouées d'avance. Alors après, elles deviennent cumulatives, c'est autre chose. Mais la conclusion que nous, on en a tirée, c'est qu'il n'y a pas continuité, il y a bel et bien une contre-révolution, on peut l'appeler comme on veut, bureaucratique ou autre, à la charnière des années 20 et 30, et qui n'est pas un problème d'idées, qui est attesté par des millions et des millions de morts. Alors, qui sont différentes par les famines, par les purges, par les déportations, etc. Mais il y a là un élément de discontinuité qui, je crois, mérite pleinement le terme de contre-révolution. Le problème, c'est que, y compris d'ailleurs les oppositionnels de gauche comme Trotsky, n'ont pas forcément totalement compris la chose parce que ils attendaient une contre-révolution qui soit le symétrique de la révolution, c'est-à-dire un coup de force qui renverse complètement ce qui avait été fait. Or, bon, j'ai découvert tardivement, comme quoi il faut lire les réactionnaires, chez Joseph de Maistre, qui lui avait la contre-révolution thermidorienne sous les yeux après la Révolution française, et qui dit « mais une contre-révolution, c'est pas une révolution en sens contraire, c'est le contraire d'une révolution. » Donc il n'y a pas de symétrie, la manière dont se défait finalement ce qu'a fait une révolution se passe autrement. Ça s'est passé Thermidor et pas le symétrique du 14 juillet ou des journées de septembre 92, etc. Et de la même manière, ça s'est pas passé comme ça. Bon, donc, mais pour nous, l'important, si on veut pas perdre le fil, c'est de repérer cette discontinuité. Après, il y a des débats, on peut avoir sur la datation, comment ça a commencé, comment ça a été préparé ou facilité par certaines faiblesses dans le logiciel bolchevique lui-même. Le logiciel, il n'est pas absolu, mais bon, le texte de Trotsky, écrit en pleine guerre civile, terrorisme et communisme, est un texte à certains égards aujourd'hui effrayant. C'est le mauvais côté de Trotsky. C'est l'idée que la dictature prolétaire est un état d'exception, certes, mais quand doit finir l'état d'exception? En 1921, quand on a gagné les guerres civiles, beaucoup de mesures d'exception pouvaient être suspendues. Au contraire, il y a eu un durcissement de l'autoritarisme du régime et une évolution renforcée vers le parti unique. Ça, et là, je crois que, par exemple, à l'époque, ils ne pensaient pas, comme un problème de principe, la question du pluralisme politique. Ils avaient l'impression que si on avait supprimé les bourgeois, le prolétariat serait naturellement bon et reconnaîtrait ses intérêts. Il a fallu du temps pour admettre que même après une révolution, les anciens opprimés ou dominés sont pas pour autant homogènes, que donc les contradictions doivent pouvoir s'exprimer par l'indépendance des syndicats, par une pluralité politique, etc. Mais voilà les... Alors, dernier point peut-être, c'est de savoir jusqu'à quel point octobre, parce qu'il y a ça aussi derrière, qui a été une date fondatrice, pas seulement par l'impact de l'événement, mais parce que ça a été aussi le point de division fondamental de courant du mouvement ouvrier. Enfin, le point de partage entre la Deuxième Internationale et l'Internationale communiste. Les leçons d'octobre, pour prendre le terme le plus général, ont servi de fondement à toute une tradition du mouvement ouvrier, avec ses bons et ses mauvais côtés, etc. Alors reste à savoir si fermé, certains pensent que le court XXe siècle de la guerre de 14 et de la révolution de 17 à la chute du mur de Berlin a été une parenthèse, après quoi l'histoire rentre dans la norme, si tant est qu'il y ait une norme historique, ce qui serait une autre question. Mais une fois fermée la parenthèse, donc la division provoquée par qui est la conséquence de la révolution russe, congrès de Tours, congrès de Livourne en Italie, scission du Parti socialiste ouvrier espagnol, etc. Enfin, ça a quand même divisé à l'échelle internationale. Si cette division est aujourd'hui un non-sens et qu'il suffirait de revenir au mouvement ouvrier unifié œcuménique d'avant 1914. Mais c'est une idée qui est discutée, hein, c'est pas... dans la plupart, il y a toujours, dans tous les partis communistes aujourd'hui, rénovés, relookés ou pas, etc., cette question est posée. Bon, moi, je pense pas. Je pense qu'on entre dans une nouvelle étape, mais que la nouvelle étape, selon une formule qui maintenant m'est chère, on recommence par le milieu, mais on recommence pas à zéro non plus. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Jerkins will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers.
Pour les oreilles loin du front, et on va continuer la série avec Tonton Ben Saïd passe à la moulinette les grandes dates du XXe siècle dans la collection Bibliothèque Rouge.
Janvier 1919, assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont tous deux été membres du Parti social-démocrate allemand. En parlant d'eux, surtout d'elle d'ailleurs, nous pouvons évoquer beaucoup de sujets essentiels comme la démocratie ou les luttes de libération nationale. Mais nous avons retenu l'antimilitarisme par lequel ils se sont opposés farouchement à la guerre de 14 au nom de l'internationalisme et contre la majorité de leur parti. Leur assassinat le 15 janvier 1919 par les corps francs du gouvernement social-démocrate sera suivi de celui de nombreux révolutionnaires allemands. Leur mort illustre ainsi parfaitement l'opposition entre réforme et révolution qu'ils ont contribué à mettre en lumière dans leur action militante. Et la date marque aussi peut-être le début de la fin pour l'extension et l'espoir de l'extension de la révolution en Europe.
Alors, bon, là aussi c'est une date symbolique forte puisque... la ligne de partage entre, pour le dire simplement, entre socialistes réformistes et un courant révolutionnaire, qui a été déterminée essentiellement d'ailleurs par leurs rapports respectifs à la révolution d'octobre, comment ils l'ont comprise, Rosa Luxembourg, on le sait, a critiqué certains aspects. Sa critique aujourd'hui est particulièrement intéressante, puisque notamment mis en cause, non pas la dissolution d'ailleurs de l'Assemblée constituante, puisqu'il y avait une double représentation, la légitimité des soviets, qui vient notamment d'ailleurs de l'insurrection d'octobre, et puis une assemblée élue dont la majorité reflétait plus la Russie d'avant octobre, et toujours en retard la représentation sur l'évolution réelle. Donc elle remet pas en cause le fait d'avoir dispersé l'assemblée constituante récemment élue à la fin de l'année 17, mais sa position n'est pas non plus de la supprimer totalement. C'est de dire qu'il faudrait organiser des nouvelles élections. Et derrière ça, la critique qu'elle fait, c'est que la démocratie n'est, qu'elle a fortement critiqué elle-même la démocratie parlementaire, mais que il faut faire la part des choses derrière, que c'est pas un luxe bourgeois, que c'est aussi une des conditions, le pluralisme de la presse, etc., de vitalité, et qu'une révolution qui devient autoritaire. Je crois qu'il y a une sensibilité chez elle très forte. Il n'y a pas une théorie de la bureaucratie, ça se saurait, mais il y a une prise de conscience de la logique bureaucratique, de la logique d'appareil dans les partis politiques. Alors ça rejoint... un aspect de la question, c'est que cette prise de conscience a été lente. Il y a d'abord eu un débat d'orientation, disons. Je m'excuse de remonter là, mais c'est quand même la logique. Le débat au début du siècle, tout le monde est dans le même parti social-démocrate. Le débat naît chez Bernstein de l'idée que certains pronostics, peut-être abusifs, tirés de Marx, finalement ne se réalisent pas. La classe ouvrière est plus nombreuse et plus concentrée. Elle n'est pas beaucoup plus homogène, c'est-à-dire que l'unité n'est pas un produit spontané de la croissance sociologique du prolétariat industriel. Les classes moyennes ne disparaissent pas, elles se renouvellent, mais il n'y a pas une simplification entre des patrons, une poignée de patrons, une masse de travailleurs, la société reste plus complexe. Et puis l'appareil d'État lui-même n'est plus le simple veilleur de nuit et bande d'hommes armés. Il y a les services publics, il y a le ministère des Transports et des Postes, etc., etc. Donc on peut gagner des positions dans l'appareil d'État. Bon, mais du coup l'idée c'est que la social-démocratie, c'est une idée très forte à l'époque, n'a pas, Kautsky a une formule, n'a pas même à préparer une révolution. La révolution est quelque chose de naturel, qui est le résultat d'un mûrissement de la société qu'on accompagne. Et le rôle du parti est un rôle purement de pédagogue. Il doit aider la conscience à mûrir. C'est à peu près ça la fonction qui est donnée. Et organiser cette conscience quand elle mûrit. Alors, le premier clash, c'est Rosa par rapport à ça, pas seulement elle, mais c'est une des premières quand même à le faire. À la lumière des grèves générales de Russie et de Belgique pour le suffrage universel, rétablit la part d'inventivité et de créativité d'un mouvement de masse spontané qui n'est ni décidé ni encadré par des appareils syndicaux et politiques. Il y a quelque chose qui vient d'en bas, il y a un socialisme d'en bas qui bouscule les routines bureaucratiques. À ça, ça va s'ajouter un deuxième élément, mais ça prend du temps, ce débat est de 1902. Il faut attendre 1910-1912 pour que ce débat sur la grève générale se greffe sur une autre question, qui est la question de la compréhension de ce qu'est l'appareil d'État. Et là, c'est autant Pannekoek, socialiste hollandais, que Rosa, qui dit « mais on a mal lu Marx, en réalité, si on regarde bien certains textes classiques, qui d'ailleurs avaient été tenus sous le boisseau, comme la critique du programme de Gotha, en réalité, il dit qu'il faut détruire l'appareil d'État, qu'on ne peut pas le faire fonctionner tel qu'il a été conçu. Il est fonctionnel par rapport à une domination de classe. On ne peut pas simplement prendre un outil technique et dire il va fonctionner au service d'une autre classe. Il y a une transformation qualitative ou une destruction de l'appareil d'État. Bon, mais pourquoi j'insiste sur le fait que cette prise de conscience a duré? Et il a fallu enfin l'épreuve de vérité qu'a été l'attitude de la social-démocratie dans la guerre pour dire enfin cet appareil, c'était pas seulement des divergences d'opinion, il y avait quelque chose de pourri dans le parti qui fait que presque comme un seul homme ou une seule femme, en 14, on s'est rallié au vote des crédits de guerre, etc. Et c'est tout le débat sur le pourquoi la faillite de la Deuxième Internationale, la brochure signée Junius de Rosa Luxembourg, qui là, bon, tire les conclusions. Alors, ça a une certaine importance par rapport à l'événement de l'assassinat et aux conséquences. D'abord, c'est que chez les réformistes, il y a des gens sincères, y compris honnêtes, pourquoi pas, mais il y a aussi des assassins en puissance. Personnellement, je suis aujourd'hui complètement révolté d'entendre, je dis pas qu'elle nous passerait au peloton d'exécution, mais d'entendre Ségolène Royal se revendiquer de Rosa Luxembourg. Il aurait fallu au moins avoir l'honnêteté de dire que c'était quand même les bons sociodémocrates de l'époque qui l'avaient flingué. Alors, par rapport à ça, le problème, je crois, c'est dans quelles conditions, c'est que le mûrissement d'une orientation alternative et la compréhension de la bureaucratisation de l'appareil social-démocrate s'est opéré sur une quinzaine d'années. Et du coup, à la différence de ce qui s'est passé en Russie, la composante révolutionnaire, parce qu'elle existait, de la grande social-démocratie allemande, n'est pas rentrée dans la guerre avec un projet indépendant. Même, tu disais, ils n'ont pas voté les crédits de guerre au deuxième vote. Mais même Liebknecht les a votés d'un premier temps. Oui. Par discipline, par tout ce qu'on veut, mais les a votés au premier vote. Donc, et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que on peut comprendre les inerties. C'est une telle contre-société, la social-démocratie allemande. Elle a, je sais pas, 150, 180 quotidiens, journaux quotidiens, dans un pays de Länder, etc. C'est un appareil syndical et parlementaire colossal. Donc, comment rompre avec une telle force? On a toujours l'espoir qu'on va la corriger ou la redresser. Mais le fait de ne pas avoir pris conscience que cette rupture était inévitable, les noyaux communistes allemands, communistes maintenus, sont sortis de la guerre, d'abord faibles, dispersés, et d'une certaine manière avec une lecture gauchiste de la révolution russe. Une interprétation un tantinet putschiste qui va durer un certain temps dans le communisme allemand, hein, avec l'espèce d'insurrection artificielle de mars 21 qui va être une catastrophe, qui va faire perdre la moitié de ses effectifs en quelques semaines au Parti communiste et qui va nourrir d'ailleurs la réflexion de l'international communiste sur comment corriger cette impatience juvénile ou infantile selon les goûts. Bon, mais ça existe à l'époque et par exemple, un des éléments qui a servi de prétexte à l'offensive contre les spartakistes, donc contre l'embryon du Parti communiste allemand en janvier 19, ça a été l'occupation du siège du Fort Wertz, du journal de la social-démocratie allemande. Bon, alors nous, on a connu depuis des scénarios de loin comparables. Il n'y a pas les conséquences historiques, mais au moment de l'affaire du Republika, pendant la Révolution portugaise, où le journal du Parti socialiste était bloqué par ses ouvriers communistes, etc. Bon, mais cette histoire-là, avec laquelle Rosa Luxembourg n'était pas d'accord, a précipité l'affrontement dans les mauvaises conditions. Bon, ça justifie absolument pas l'assassinat, les corps francs, mais on est dans un contexte de guerre civile. Alors, est-ce que les carottes sont cuites? Est-ce que la décapitation, parce que ça n'est une quand même, du mouvement communiste allemand naissant, parce qu'on sait maintenant le temps qu'il faut pour développer une culture, une collectivité militante, etc., ayant rompu très tard avec la majorité social-démocrate, dans plus l'effervescence de la révolution russe de la fin de la guerre, bon, on a un parti qui est encore à peine en construction, qui vient d'adopter un programme, etc. Et je crois pas, c'est difficile, on peut le discuter effectivement. Est-ce que, en tout cas, cet assassinat a hypothéqué grandement la construction d'une équipe politique. On emploie peu le terme en France, mais en Italie, il y a toujours l'idée du groupe dirigeant, parce que il y a toute une réflexion sur comment s'est formé le noyau du Parti communiste italien, etc. C'est quelque chose qui a une certaine importance dans l'histoire d'un parti. Mais si on regarde ce qui s'est passé après, Disons que les opportunités de relance, moi je reste là-dessus un peu classique, c'est-à-dire que il y a une séquence révolutionnaire allemande qui va de 18 à 23, et que l'échec, enfin, ce n'est peut-être que la conclusion ultime, mais de la révolution allemande, c'est l'échec de l'octobre allemand de 23. Peut-être que l'occasion était déjà perdue avant, mais elle s'est perdue en plusieurs moments. Hein. Tu as dit à juste titre, c'est bien sûr symboliquement c'est Liebknecht et Rosa, mais quelques mois après ou quelques semaines, c'est Léo Jogiches, etc. C'est quand même toute une partie d'équipe militante qui a une histoire. Et puis ils perdent encore de grosses plumes après l'action de mars 21. Paul Lévy, dont on peut dire après coup, c'est un opportuniste. Mais enfin, c'est pas l'idée qu'en avait Lénine. Hein. Il disait, bon, dans cette affaire de l'insurrection, de l'action de mars 21, il dit, beaucoup de gens ont perdu la tête, mais Paul Lévy au moins avait une tête à perdre. Les autres étaient des écervelés. Bon, enfin les autres, certains des cadres du Comintern en particulier. Et après, il y a la fameuse histoire de l'insurrection, ratée ou pas, d'octobre 23, qui est relatée dans la tragédie de Hambourg par le bouquin de Jan Valtin, Sans patrie ni frontières, etc. Mais donc, c'est vrai que le problème en politique, c'est que les conséquences sont cumulatives et que chaque occasion perdue compromet la suivante. Ça ne veut pas dire que le cycle est clos, mais que ça devient beaucoup plus difficile de remonter la pente. Et janvier 19 a eu des conséquences probablement sur mars 21 ou sur octobre 23. Mais la conséquence de tout ça est énorme, elle est incalculable pour l'histoire du XXe siècle, pas pour l'Allemagne seulement, ni pour l'Allemagne et la Russie. Dans toute la perspective stratégique quand même des bolcheviks, était que la révolution russe... on n'avait pas commencé par le bon bout, mais on n'avait pas choisi. Mais avait de sens si c'était le coup d'envoi d'une révolution européenne. Et c'était pas bercer l'illusion, parce que finalement, si on regarde ce qui s'est passé en quelques années, en Italie avec les conseils ouvriers de Turin, avec la République des conseils de Bavière en Allemagne, avec la République des conseils de Hongrie et avec les mouvements en Autriche, il y a eu quasiment une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire européenne. Bon, et du coup, de l'échec de la révolution allemande, quand je dis ça a conditionné le siècle, et ça a probablement ou quasi certainement déterminé les conditions de la bureaucratisation. Elle aurait eu lieu, mais peut-être pas en débouchant sur les mêmes résultats en Russie. Et puis surtout, ça a conditionné la possibilité du nazisme. On évalue souvent, et même en comptabilité, le coût des révolutions et des guerres civiles, mais généralement, on oublie de calculer le coût des révolutions perdues ou des révolutions non faites. Et l'humanité a payé un prix exorbitant au XXe siècle, à travers la victoire du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale, de l'échec de la révolution allemande. Alors bon, aujourd'hui, c'est pour ça que les symboles, peut-être terminé par là, mais les symboles de Rosa Luxembourg... de Liebknecht. Ben moi, j'étais à la manifestation de Berlin en janvier 68, qui était une manifestation pour le Vietnam, internationale. Berlin était coupé en deux. Il fallait traverser un bout de l'Allemagne de l'Est pour aller, etc. C'était super émouvant parce que on était 69, janvier 68. On était à un demi-siècle moins un de l'anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxembourg. Et c'était... et en gros, outre la solidarité avec le Vietnam, le mouvement étudiant allemand, etc., le symbole de cette manifestation, c'était aussi un hommage à Rosa Luxembourg.
Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais. Dans la rue, l'humeur est sale,
c'est rien, c'est rien.
De la rue montent les rumeurs,
ça va pas bien loin.
Et si les casques bleus calent,
c'est rien, c'est rien.
Si c'est chaud sur l'asphalte,
c'est rien, c'est rien.
On passe tes barricades, on pète tes barrières. On a la barre, on déraisonne et on craint plus personne. Toi t'appelles les renforts, la rage de renfort. Sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne. Insensible aux propagandes, des
mecs qui glandent. Ceux-ci bandent hélas et veulent tout péter en bande, comme dans un James Bond ou un Banderas. Là t'as pas de télécommande, donc on nique en force, en full désordre.
C'est rien,
pour toi on a une corde.
C'est rien,
tu nous verras à l'antenne, déraciner ton chaîne. On va changer les programmes sur ta première chaîne. Impur, les règles n'existent plus. La foule a compris et ça n'hésite plus. Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien qui triomphe. L'instinct a fait un triomphe et un cri en fausse. Si l'émeute s'étend,
c'est rien,
et si c'est inquiétant,
ça va pas bien loin.
Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées, et ta citoyenneté, on en a rien à glander. Les gens des halls me comprennent, c'est dans Hollis que j'aime. Y'a trop de haine qui coule dans mes veines. Un peuple héroïque face à un pouvoir égoïste. Un coup de gueule des sous-classes de la République. C'est un champ de bataille sur les Champs-Élysées. Le diable vient pisser sur la rue de la paix. On lâche pas le contrôle,
c'est rien
sur la lisière de l'émeute. Subit la haine de la meute. C'est rien et qu'ils le sentent,
c'est rien
si la tension est oppressante,
ça va pas bien loin.
S'il y a plus de respect, plus de cadre et plus de gradé, et que tous vos conseils, on n'a rien à péter. On va tout dégrader, la banque va sauter, la boulangerie d'à côté. On fout le feu chez le voisin histoire de se venger. S'il y a des buts cassés,
c'est rien
si on vient tout plier,
ça va pas bien loin.
Si le maire s'est sauvé,
c'est rien
et même s'il y a l'armée,
c'est rien
s'il y a des gènes pavés, des comas, des hématomes, des blessés, des décès, si ton pays est stressé. Feu au village, s'il y a le feu dans la ville, si tu vois saigner les civils, si ça tire dans l'entourage, c'est juste une nuit d'émeute où le diable jubile. Deux jours aux infos, après on est tranquille. C'est rien, ça va pas bien loin.
Les oreilles loin du front, et on continue donc la série toujours avec Daniel Ben Saïd, qui a été habillé par le grand couturier du 20e arrondissement, membre aussi lui-même de la LCR, qui porte parfois un pantalon en cuir dans lequel il a de plus en plus de mal à rentrer, paraît-il. Gwen.
Juillet 36, déclenchement de la Révolution espagnole. Le 17 juillet 36, la garnison espagnole de Melilla, dirigée par Franco, se soulève contre le gouvernement républicain du Front populaire, élu en février 36. Cette date marque le début de la Révolution espagnole qui s'achèvera en mars 36 par la victoire de Franco et l'instauration d'une dictature qui durera 40 ans. Alors je pense que pour bien comprendre ce qui s'est passé en Espagne à ce moment-là, il est important de faire un bref retour en arrière. À la sortie de la boucherie qui a constitué la Première Guerre mondiale, les traumatismes sont immenses et durablement présents. Les vieilles démocraties bourgeoises, France-Angleterre, ont du plomb dans l'aile et voient avec inquiétude se développer des organisations se réclamant de la Révolution d'octobre. La Révolution allemande est écrasée. En décembre 1920, la guerre civile s'achève dans la toute jeune Union soviétique. Lénine meurt en 24, laissant rapidement Staline mettre en place sa théorie de la Révolution dans un seul pays et éliminer toute forme d'opposition. Je le précise juste parce que je pense que ça aura un lien avec la suite de notre sujet. Donc c'est dans ce contexte qu'on va assister au cours des années 20 à un développement des organisations se réclamant du fascisme instauré par Mussolini en Italie en 1922. Des dictatures vont donc se multiplier en Europe, Portugal, Roumanie, Pologne, Hongrie, mais aussi dans le reste du monde, Brésil, Chine, entre autres. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Donc voilà. Il nous semble important de savoir quel regard tu portes aujourd'hui sur la Révolution espagnole. Quelles conséquences cette défaite a pu avoir sur le monde et sur le mouvement ouvrier en général, et que tu précises l'importance qu'a pu occuper, voire occupe encore aujourd'hui, l'antifascisme sur le mouvement ouvrier.
Non, mais sur le sur la, la Révolution espagnole elle-même, la grande question qui est posée, qui se discute encore sur la Révolution espagnole, c'était comment pouvait et est-ce que pouvait se combiner à ce moment-là une guerre civile de défense de la République ou de la démocratie, sans aller plus loin, ou bien une guerre civile qui associait étroitement la réplique au coup d'État franquiste, au coup d'État militaire, et l'approfondissement de la dynamique de révolution sociale. Ça, ça a été une ligne de partage fondamentale. C'est-à-dire, de la part principalement du Parti communiste, mais déjà adossé à l'appareil d'État soviétique, puisque ce Parti communiste était jeune et relativement faible, il a en grande partie tiré sa force du soutien matériel et notamment du soutien militaire dans la crise elle-même de l'Union soviétique, sur une ligne qui, à l'époque des Fronts populaires, était une ligne de défense de la démocratie et sur l'idée que toute dynamique qui tendait à approfondir le contenu social de la Révolution espagnole dans le cadre de la guerre civile était un facteur de désordre, de division, d'affaiblissement contre la discipline nécessaire d'une armée relativement classique pour tenir tête à l'armée franquiste. Alors, autour de cette question-là que c'est joué. Alors après, on peut toujours imaginer que le problème ne se réduit pas à ça, parce que les rapports internationaux, les rapports de force internationaux étaient tels que la condition de victoire de la République espagnole et du développement de la Révolution espagnole était de toute façon précaire, pour au moins deux raisons. C'est d'une part la politique dites des démocraties européennes. Un des grands crimes quand même de ces démocraties, y compris leurs composantes socialistes ou social-démocrates à l'époque, c'est la non-intervention. Alors que l'Allemagne et l'Italie intervenaient ouvertement, Guernica, etc., etc., même avec des formes d'aide parfois un peu cachées, mais le principe respecté de non-intervention, finalement, on peut dire que les sociodémocrates sont intervenus partout, sauf quand il le fallait. Partout dans les guerres coloniales, partout dans les expéditions. Là où, effectivement, se jouait encore une fois une partie du sort de l'Europe et probablement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui explique d'ailleurs l'écho extraordinaire de la Révolution espagnole dans la littérature, de Hemingway à David Goodis, à Malraux, à Bernanos même. Bon, donc c'est un événement qui est aussi un déterminant du siècle, hein, et même des échos lointains, pour ceux qui connaissent, chez Malcolm Lowry, au-dessous du volcan, le bruit de fond, c'est il faut envoyer des armes à l'Espagne républicaine. Bon, et donc ça c'est le point majeur. Alors c'est aussi la mise à l'épreuve à peu près des différentes orientations, c'est-à-dire indépendamment de l'héroïsme indiscutable, de la générosité des militants et des combattants du Parti communiste, etc. Mais c'est une ligne politique qui a une responsabilité très lourde probablement dans la défaite, ne serait-ce puisque maintenant l'affaire est mieux connue. Pendant toute une période, elle était connue essentiellement des milieux libertaires ou des milieux oppositionnels de gauche ou des lecteurs de Orwell et de son livre sur la Catalogne libre, mais dans une certaine mesure, on a parlé pour l'Allemagne de l'assassinat de Rosa Luxembourg, etc., mais le sort de la guerre civile espagnole s'est déjà joué en partie dans les journées de mai 37 à Barcelone. C'est-à-dire, dans la répression au sein du camp révolutionnaire de la composante libertaire et poumiste par la restauration d'un ordre militaire et étatique sous direction des staliniens. Bon, on a maintenant le film de Ken Loach qui s'inspire d'ailleurs du récit de Orwell, etc. Mais symboliquement, et pas seulement symboliquement, on peut dire que mai 37 en Catalogne illustre ça. Par ailleurs, toute l'histoire de la Révolution espagnole est aussi un test des différentes politiques. Et il y a du côté de la culture libertaire qui était très importante pour des raisons historiques, pour des raisons sociales, l'influence de Bakounine dans la composante espagnole de la Première Internationale, les racines des sociétés rurales en Andalousie notamment, etc., bon, qui donne une forte tradition libertaire, qui a ses côtés positifs, c'est-à-dire les expériences d'auto-organisation, d'autogestion, de milices, l'épopée de Durruti, etc., mais qui en même temps, finalement, en inscrivant pas dans le projet stratégique ou en pensant résoudre par la simple abolition des rapports de pouvoir, des rapports étatiques, le problème de la révolution, se trouve finalement prise à contre-pied, c'est-à-dire on veut pas salir les mains avec le pouvoir, on nie le problème du pouvoir, mais le problème du pouvoir vous rattrape, et on voit du coup des oscillations entre une intransigeance à la limite du purisme et puis finalement des compromis réalistes à un moment donné, et parfois même un peu ingénus avec les composantes du camp républicain. Bon, moi j'ai connu la queue de comète de ces débats, parce que Toulouse était quasiment ou en partie une ville espagnole. Hein. Quand j'ai adhéré à la JC en 62, il y avait plus de jeunesse communiste espagnole, ils étaient plus nombreux que nous. Ma première manif, c'était pour l'assassinat et l'exécution de Julián Grimau, qui est dirigeant du Parti communiste espagnol en 62. Bon, et la Bourse du Travail de Toulouse, c'était les débats entre communistes, peut-être quelques poumistes, je m'en rendais pas compte à l'époque, et surtout pas mal d'anards, qui refaisaient la bataille de Guadalajara, et 36, il y avait un côté ruminant comme ça, mais incontestablement, ça, bon, c'est ce qui a marqué. Alors, du côté de l'opposition de gauche espagnole, il y avait une petite opposition de gauche trotskiste, mais vraiment toute petite, qui a agi essentiellement à travers le POUM, et à partir de débats qui étaient compliqués. Parce que la conclusion qu'a tirée Trotsky la victoire du nazisme en Allemagne de 1933, c'est que la montée du nazisme ou du fascisme en Europe allait réduire l'espace sur lequel pouvait vivre et éventuellement prospérer la social-démocratie, que la mise en cause du jeu démocratique parlementaire allait miner la base même de redistribution, de négociation, de compromis dont se nourrit la social-démocratie. Il en tire une conclusion qui n'était pas fausse du tout, qui était que, confronté à cette menace, à la social-démocratie, ou une partie d'entre elles devrait réagir, ne serait-ce que par un réflexe d'autodéfense, en se radicalisant sur la gauche. Dans une certaine mesure, ça a été le cas. Ça a été le cas en Autriche avec l'insurrection du Schutzbund en 34, et des courants de gauche, bon, avec toutes ses limites personnelles, Largo Caballero apparaîtrait comme un bolchevique fanatique aujourd'hui comparé aux dirigeants actuels de la social-démocratie. Bon. Mais du coup, l'idée, c'est qu'il fallait, pour des petits groupes, s'inscrire dans ce courant de radicalisation de la social-démocratie. À la rigueur, accepter que, au vu de la situation particulière en Catalogne, il y ait un poum en Catalogne, mais que des révolutionnaires, pour le reste de l'Espagne, travaillent principalement dans le Parti Socialiste. Bon, c'était des choix difficiles, il n'y a aucune évidence là-dedans. C'est vrai que le poum, si on compare à des organisations révolutionnaires aujourd'hui, a dû avoir jusqu'à 30 000 militants à peu près. Dans une situation révolutionnaire, c'est pas du tout négligeable. mais avec un développement très inégal. Très inégal. Et puis là aussi, Andrešný n'a pas été tué par les troupes franquistes, mais aujourd'hui, l'enlèvement et l'assassinat de Nin Alcalá de Henares par les staliniens est quelque chose d'avéré, de public en Espagne, c'est même plus discuté aujourd'hui. Bon, je dis pas que Nin aurait joué le rôle équivalent de Rosa Luxembourg, etc., mais bon, enfin, il y a quand même eu une double répression, c'est-à-dire la répression franquiste, puisque l'autre figure dirigeante du POUM, Maurín, a été arrêtée dès le début, finalement, du coup d'État. Et puis d'autres ont été exécutés dans leur propre camp. Je rentrerai pas sur les hypothèses, sur la mort de Durruti, etc. Mais bon, en tout cas, les suspicions peuvent exister. Et il y a eu règlement de compte, incontestablement, dans le camp républicain, au détriment de sa composante révolutionnaire. Alors, je crois... En plus que cette affaire espagnole a joué un rôle enfin négatif, le mot est peut-être pas approprié, mais il y a une certaine sectarisation, par exemple chez Trotsky, au fil de ses écrits à ce moment-là. Et qu'on peut comprendre, en tout cas d'un point de vue humain, pour pas parler psychologique, on sent qu'il y a un désespoir qui monte, que chaque occasion perdue, alors ça a été la révolution allemande de 23, ça a été la révolution chinoise, ça a été la victoire du nazisme en Allemagne, et maintenant la guerre civile espagnole. Bon, chaque occasion perdue rapproche d'une catastrophe. Et ça, c'est un des points sur lesquels Trotsky était lucide, sur la logique de la guerre annoncée, et même sur certains aspects de cette guerre, par exemple sur le génocide juif. C'est sûrement un des rares en 38 à avoir prévu ça. Bon, mais en même temps, l'idée qu'on est tellement à contre-courant que si on regarde, et ça c'est à mon avis une mauvaise école, une mauvaise culture, le ton des polémiques qu'il mène contre des dirigeants du POUM, qui sont des révolutionnaires, qui peuvent se tromper, ou contre Victor Serge, etc., c'est une culture de la polémique qui est... Qui a une logique sectaire, il faut le dire comme ça. On peut en comprendre les raisons avec le recul. On n'est pas dans le tourbillon, on n'est pas dans le... Donc, on a une certaine distance qui permet de comprendre, mais incontestablement, on voit là une logique du désespoir, hein, bon, qui en plus est nourrie parce que parallèlement, il y a les procès de Moscou, y compris les drames familiaux, le assassinat ou pas de Sédov, mais en tout cas, suicide de sa fille en Allemagne, etc. Mais tout ça sont des composantes humaines qu'on peut comprendre. Alors, enfin, je crois qu'il faut rapprocher, même si c'est pas la même séquence historique, cette affaire-là de la tragédie grecque. Je crois qu'il y a deux... Pour moi, il y a deux expériences en Europe qui sont absolument hallucinantes. C'est la manière, finalement, dont... s'est résolue la guerre civile espagnole par une défaite, mais par une défaite qui s'est jouée autant dans le camp républicain que par rapport à l'adversaire. Et puis, le remake, presque en pire, même s'il est moins connu, c'est la guerre civile grecque, qui est une catastrophe absolue. Avec un parti stalinien qui encore aujourd'hui a des très beaux restes en la matière, c'est le seul en Europe qui soit resté sur ce modèle-là, mais pratiquement l'insurrection grecque avait là pour le coup le pouvoir à portée de la main, hein, et on leur a interdit d'en utiliser. Le désarmement, vous avez les photos, hein, le fait d'aller déposer les armes sur les places de village, etc., qui fait que ce qui est resté après, entre 47 et 49, a été purement et simplement assassiné. Alors l'importance dans l'antifascisme, oui, il y a une culture antifasciste qui vient de là, qui a été perpétuée par l'antifranquisme. Pour nous, enfin peut-être il y a un microclimat toulousain, mais pour nous la guerre d'Espagne n'était pas finie. C'était quand est sorti le film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, les gens sortaient en larmes, etc., etc. C'était notre guerre encore dans les années 60. Bon, évidemment, de là vient aussi, c'est une des composantes de la culture d'un antifascisme radical. Je dis antifascisme radical quand même pour distinguer d'un antifascisme œcuménique ou à minima, qui est que l'antifascisme humaniste, le fascisme c'est méchant, c'est mal, etc. mais ne tient pas lieu de ligne politique. Hein. C'est-à-dire que comment vaincre le fascisme, c'est le titre qui a été donné aux écrits de Trotsky sur l'Allemagne. Mais c'est un problème d'orientation politique, c'est pas un problème de protestation morale. Il peut y avoir une indignation morale et c'est un point de départ. Mais et en gros, au XXe siècle, et a fortiori si le problème se repose, malheureusement, ça peut arriver au XXIe siècle, on ne vaincra le fascisme, bien sûr, qu'en défendant les acquis démocratiques, etc., mais que par une politique sociale qui coupe à la racine ce dont il peut se nourrir, que ce soit... D'ailleurs, dans des pays capitalistes développés ou dans d'autres secteurs de la planète.
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage. C'était donc Les Oreilles Loin du Front, une émission qui tente de réconcilier les diverses composantes du mouvement ouvrier. Avec ce soir, pour donner des perspectives historiques à la radio libre, on retrouvait donc les hordes révolutionnaires du 20e siècle, 21e siècle naissant. Ce soir, dans le rôle de Karl Liebknecht, on retrouvait notre petite pépite de chocolat en forme de pomme d'amour. C'était Raphaël. Dans le rôle de Rosa Luxembourg, pour faire dire des dates à Daniel Ben Saïd, on retrouvait Marion. Et puis, dans le rôle du Poum, que dis-je, du Tata Poum, on retrouvait les héros du rock'n'roll qui ont habillé Ben Saïd avec quelque chose d'un rien martial. C'était Gwen et Laurent. Dans le rôle de Lénine, notre petit père à nous en matière de radio libre et indépendante, c'était Guillaume Yom. Et puis dans le rôle de Durruti, du colonel Durruti, celle qui parcourt le monde pour toujours finir par revenir dans les studios de FPP, c'était Juliette. Il y avait aussi Alex, il y aura bientôt Claudie et Claudia, puisque voici les échos du Capricorne qui nous chanteront encore la même mélodie.